Sur Mama Yoga, le podcast entièrement consacré aux futures et jeunes mamans désireuses de vivre une grossesse épanouie et un postpartum serein grâce au yoga périnatal. Je m'appelle Judicaëlle Godbert, je suis infirmière anesthésiste et yoga thérapeute spécialisée en périnatalité. Chaque semaine, je vous donne accès à des séances de yoga périnatal, des méditations, aux conseils des meilleurs spécialistes. Je vous offre des stratégies pertinentes de préparation à la naissance et je vous propose un accompagnement optimisé pour mieux vivre votre grossesse et votre postpartum. J'ai à cœur de partager tous mes secrets en yoga périnatal et de les transmettre tout autour de moi. Alors, si toi aussi tu connais des futurs ou jeunes parents que ce podcast peut aider, n'hésite pas à le partager, à t'abonner à ma chaîne ou à le noter sur Apple Podcast. Je te remercie et te souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce 21e épisode de Mama Yoga Podcast. On continue aujourd'hui avec notre nouvelle série d'interviews puisque je vous propose les interviews des Yoga Mamas qui m'ont suivi sur les séances de yoga périnatal, sur leur parcours de grossesse et de postpartum. Aujourd'hui, on reçoit Alexandra. Bonjour Alexandra, tout d'abord je te remercie de m'honorer de ta présence et d'avoir accepté de nous dévoiler ton expérience d'accouchement. Je suis ravie de te revoir et de te recevoir sur ce podcast. Tout d'abord, comment vas-tu ?
Bonjour Judy. Déjà, merci de me recevoir chez toi, dans ton espace, pour ce podcast. Eh bien, écoute, tout va bien. Je suis en vacances depuis hier soir. Donc, c'est plutôt cool.
Tu vas t'accorder un peu de temps pour toi sur ces vacances,
c'est prévu ? Oui, c'est prévu. Du temps en famille, du temps avec bébé et du temps pour moi toute seule.
Le top, le combo. Alors, on va commencer notre interview et je vais te demander pour commencer donc de te décrire pour nos auditrices et nos auditeurs.
Ok, donc je vais avoir 31 ans dans 2 jours. Je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Maël et qui aura 13 mois la semaine prochaine. Je suis psychologue et professeure de yoga. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire? J'adore le yoga. C'est ce qui m'a amenée chez toi.
Tu nous dévoiles ce qui te fait envie, ce qui te fait plaisir. Donc on va parler de ton accouchement, donc de ce premier bébé, premier projet bébé. Et du coup, je vais te demander quel était ton projet de naissance pour ce premier enfant.
Alors avant de tomber enceinte, j'avais pas trop d'idées sur comment ça allait se passer parce que j'avais très peur de l'accouchement, je pense comme beaucoup de femmes. Et très rapidement, au début de la grossesse, j'ai eu envie de pouvoir me donner la possibilité de faire un accouchement à domicile. Donc on a tout quadrillé, l'accompagnement aussi que j'ai eu pendant ma grossesse au niveau médical et sage-femme. J'ai été accompagnée par une sage-femme qui est spécialisée dans les accouchements à domicile. Donc en fait, dès le début, ça a été un AAD pour nous, le papa.
Et qu'est-ce qui t'a donné envie? Enfin, est-ce que tu sais ce qui t'a donné envie de prétendre à un accouchement à domicile, puisque comme on le sait, en France, c'est pas ce qui nous est, on va dire, c'est pas le choix, le premier choix, on va dire, qu'on nous propose, hein, puisque souvent, en tout cas en France, encore une fois, on va plutôt partir sur les accouchements en maternité. Donc toi, est-ce que tu sais ce qui t'a donné envie de prétendre à un accouchement à la maison?
J'ai été beaucoup documentée avant moi-même d'être enceinte, parce que dans mon activité de psychologue et de périnatalité, justement, j'ai un réseau professionnel autour de moi qui est assez accouchement physiologique, grossesse physiologique. Et du coup, j'ai eu beaucoup d'occasions d'apprendre comment ça se passe un accouchement, comment se passe une grossesse, quelles sont les conditions optimales pour un accouchement, écouter beaucoup de témoignages, lire beaucoup de choses. Et petit à petit, en fait, j'ai eu plein d'infos sur l'accouchement à domicile. Et ça m'a permis aussi de casser un peu justement les croyances qu'on a en France sur le fait que c'est forcément dangereux, que c'est forcément se mettre en danger. J'ai pu aller chercher les informations auprès des bonnes personnes. Et moi qui avais envie de pouvoir avoir un accouchement assez naturel, physiologique, avec mes angoisses et ma crainte du milieu hospitalier et médical, même en ayant travaillé en hôpital, en fait, ça me permettait de cocher un peu toutes les cases. Je vais pouvoir choisir de qui je m'accompagne, je vais pouvoir être accompagnée tout le long de ma grossesse jusqu'à la naissance de mon bébé par les personnes que j'ai choisies. Mon projet de naissance, la façon dont je veux mettre au monde mon enfant, ça peut en tout cas être mieux respecté. J'ai le choix de si je veux une péridurale ou pas, sans avoir l'injonction « il faut parce que » Des fois, quand on est dans le vif de l'accouchement, on n'a pas forcément la possibilité de prendre des décisions éclairées et conscientes, je pense. Surtout quand on est dans un secteur médical où il peut y avoir un petit peu la pression. C'est le médecin qui dit, donc il faut faire. Et la AD, pour moi, c'était, je suis chez moi, dans mon cocon, dans mon espace, à mon rythme. Et c'était aussi de me donner la possibilité, après la naissance de mon bébé, de pouvoir rester chez moi, en fait. Mm-hmm. Et de ne pas subir le fait de devoir laisser mon bébé entre les mains de plein de personnes différentes, qu'on vient de me donner plein de messages différents, je voulais allaiter. Donc je sais qu'être accompagnée pour l'allaitement en maternité, on a des fois des discours qui sont contradictoires, on a un peu la pression. Et là, c'était l'opportunité de le faire chez moi, toujours pareil avec les gens qui m'avaient accompagnée sur ce projet d'allaitement pendant la grossesse, et de faire à mon rythme surtout.
Oui, en fait, ce que tu dis, c'est que donc initialement, tu as choisi ce projet parce que tu avais les connaissances, enfin, en tout cas, tu savais que c'était possible, et de le faire, on va dire, dans de bonnes conditions.
Oui, sécuritaire surtout.
Voilà, et que en fait, finalement, tu avais peut-être peur de la prise en charge en milieu hospitalier. Alors, je pense qu'après, on trouve des excellents professionnels de santé en milieu hospitalier, mais c'est vrai que des fois, avec les conditions dans lesquelles on travaille, pour moi-même aussi avoir travaillé à l'hôpital, des fois, on est pris un peu dans le rush, on n'a pas forcément les opportunités de travailler comme on aimerait le faire. Et donc, des fois, en fait, les professionnels sont pris un peu dans ce rush et ne peuvent pas du coup être aussi disponibles qu'on le voudrait, ou en tout cas qu'une sage-femme peut-être libérale ou à la maison qui est du coup en exclusivité avec les parents. Donc ça je l'entends tout à fait. Et donc par contre, malgré donc projet d'accouchement à la maison, à domicile, à AD, même si tu savais que du coup ça exclut par exemple la péridurale, donc la gestion de la douleur en tout cas d'un point de vue médical, ça ne te faisait pas peur?
Ah bah si, beaucoup. Moi je suis douillette, je me tape l'orteil, je me fissure le petit orteil, donc si tu veux, je pense que ça fait partie des peurs naturelles de l'accouchement, la douleur. Mais ce qui est chouette, c'est que quand on choisit d'avoir un accompagnement physiologique, même en maternité, parce qu'en parallèle, dans le parcours, j'ai été inscrite à la maternité de Grasse en parcours physiologique. C'est un critère de toute façon indispensable pour la sage-femme qui fait les AAD. Il faut qu'il y ait un backup médical si besoin. Sinon, elle ne t'accompagne pas.
Ça, c'est au cas où, en fait, finalement, même si on a commencé le projet à la maison, on doit se diriger vers une mater. Du coup, il faut avoir fait un parcours, auprès d'une maternité.
Il faut qu'ils aient ton dossier, qu'ils te connaissent, que tu aies eu les premiers examens. Sinon, tu débarques et puis ils ne savent pas d'où tu viens.
Il y a eu consultation d'anesthésie au cas où.
C'est ça. Tu as la consultation d'anesthésie, tu as les rendez-vous prénataux de fin de grossesse et le dernier rendez-vous de dernier trimestre avec le gynécologue de la maternité. Et en fait, malgré ça, j'avais quand même très peur de la douleur. Et je me disais, mais bon, comment faire? Et en fait, dans le parcours d'AAD, tu es accompagnée sur justement apprendre pourquoi tu as mal, à quoi la douleur sert et comment la gérer aussi. Comment gérer l'intensité finalement des contractions. Et en fait, c'est tout un mindset que tu prépares pour le jour J. Pour moi, il a été indispensable. Je pense que si je n'avais pas été accompagnée sur la gestion de la douleur, je n'y serais pas arrivée parce que je suis très très douillette et que c'était très 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 flippant. Et mon état d'esprit a changé. Sur la fin de la grossesse, je me sentais prête, même si je savais que j'allais avoir mal, parce que ça fait partie du travail. J'avais des outils en tout cas pour pouvoir gérer ça. Et en fait, je me rends compte que, avec le recul, dans le moment de l'accouchement, j'ai eu mal, bien sûr, mais les outils que j'ai eus m'ont permis de passer outre.
Donc justement, quel a été ton projet de naissance finale? Alors, comment s'est déroulé cet accouchement et où il s'est déroulé?
Alors, bébé était prévu pour la fin du mois de juillet. Et depuis le début de la grossesse, j'étais convaincue qu'il n'irait pas à terme, ce bébé. Je m'étais dit, il arrivera 2 semaines avant. Je calais tous mes rendez-vous. Je devais voir ma doula pour le dernier rendez-vous postpartum après la mi-juillet, et je lui avais dit non, il faut qu'on avance le rendez-vous, je sens que sinon il ne va pas avoir lieu. Et en fait, le rendez-vous de ma doula a eu lieu et le lendemain, j'accouchais. Et donc bébé est arrivé avec 15 jours d'avance. Je pense que je n'étais pas prête, parce qu'en fait, j'étais très bien dans ma grossesse. Ça a été une période très, très chouette pour moi. J'ai pris du temps, j'ai ralenti, j'ai pris soin de moi, j'ai fait plein de choses que je n'avais pas le temps de faire. Donc j'ai vécu une grossesse très épanouie. Et en fait, j'étais bien, il aurait pu rester encore un peu au chaud. Et puis, j'ai eu une ou deux contractions, je pense, la semaine d'avant, notamment pendant un massage avec toi, mais que je n'avais pas identifié comme une contraction. Et un matin, je me lève et je ne m'attendais pas du tout à perdre la poche des os, en fait. Je m'étais préparée au fait que ça allait peut-être se rompre pendant l'accouchement. Et je prenais mon petit café en lisant mon petit yoga magazine, là, en faisant du tri chez moi. Et à un moment, je me redresse, j'étais penchée en avant, j'étais pas du tout bien pour bébé, hein. Tu vas me gronder. Et en me redressant, en fait, j'ai entendu un gros ploc. Et puis, je suis restée assise, il s'est rien passé. Et quand je me suis levée, en fait, j'ai perdu beaucoup de liquide. Donc, j'ai tout de suite appelé ma sage-femme, qui m'a dit, écoute, le liquide est clair, on se laisse 48 heures pour accoucher, reste à la maison, prends soin de toi, mange, prends un bain, fais ta vie. En gros, elle était vraiment, vraiment pas pressée. Donc, il était 10h du matin. J'ai pas eu de contraction jusqu'à 11h30. Donc, j'ai envoyé papa au sport pour qu'il se décharge. Moi, j'ai préparé mon espace, j'ai pris le temps de faire un peu de méditation, un peu de yoga, de me doucher. Et en fait, là, j'ai réalisé que j'allais rentrer en travail et j'ai flippé. J'ai flippé parce que j'étais pas prête et toutes mes angoisses de toute la grossesse sont revenues parce que c'était le jour J et qu'il allait falloir y aller. Et puis toujours cette question de j'ai envie d'accoucher à la maison, est-ce que ça va pouvoir aller jusqu'au bout? Parce qu'on se fait toujours une idée de notre accouchement idéal et ça se passe rarement comme on l'espère. Et je pense qu'il y a un truc qui s'est passé, j'ai lâché, j'ai laissé faire et en fait ça s'est passé comme j'aurais souhaité. Donc j'ai pu accoucher à la maison. J'ai eu mes premières contractions à 11h30. Ça a duré une heure de manière plutôt stable, très bien, très gérable. Donc, j'ai continué à m'occuper. Et en fait, très rapidement, mon chéri m'a fait remarquer que j'avais des contractions toutes les 2 minutes, qui étaient de plus en plus intenses. Donc, je m'étais préparée au fait d'avoir des temps de pause entre les contractions, de pouvoir souffler, faire du yoga. Et en fait, j'ai rien pu mettre en place parce que c'est allé très vite. Et 3 heures après, j'ai accouché. Donc, le papa m'a préparé un bain, j'ai pris un bain, je pensais que ça allait calmer les contractions, et non, ça a accéléré le travail.
La sage-femme n'était toujours pas arrivée.
Elle n'était toujours pas arrivée, je lui envoie un texto, ça faisait que 2 heures en même temps que j'avais les contractions, elle me dit c'est normal, ton bébé est en train de prendre sa place, il fait son chemin, tu gères très bien, je viens en fin d'après-midi, elle me dit je viens vers 17h pour faire un monito, prendre tes constantes, petite anecdote, j'ai accouché à 4h. Donc je prends mon bain et puis là je pense que je suis rentrée dans une phase de travail très intense où j'ai commencé à avoir peur, à avoir très mal, à me dire que j'allais pas pouvoir gérer, pourquoi est-ce que je m'étais mise en tête de faire un accouchement sans péridurale, que là il me fallait la péridurale tout de suite. Donc j'ai dit au papa, tu rappelles la sage-femme, tu lui dis qu'elle vienne tout de suite m'ausculter et on part à la maternité. Donc ma doula aurait dû être là, c'était prévu. Et du coup, je ne l'ai pas fait venir parce que je pensais que j'allais aller en maternité. Et puis, un quart d'heure après qu'il ait appelé la sage-femme, je lui dis « Tu la rappelles tout de suite parce qu'il y a un truc qui n'est pas normal. » En fait, je sentais le bébé très bas et je n'avais pas compris qu'en fait, il était en train de naître et que je retenais justement pour ne pas accoucher seule dans la baignoire avec papa. 5 minutes après, la sage-femme était là, je suis allée m'installer sur le lit. Et en fait, elle m'a dit « Mais la tête est déjà là, tu es en train d'accoucher, tu fais toute seule, vas-y. » Et une demi-heure après, bébé était né. Donc ça a été très très intense parce qu'on nous prépare au fait qu'un premier bébé puisse mettre des heures et des heures à venir et en fait en 4 heures, bébé était là.
Et donc, finalement donc le moment où tu te dis non mais je vais aller à la mater, je tiendrai jamais la douleur, c'était finalement cette phase de désespérance parce que bébé était en train d'arriver. Finalement.
En fait c'était sur les derniers centimètres de dilatation, là où vraiment on se dit mais on va jamais y arriver, pourquoi on accouche déjà, rien que le fait d'accoucher et en fait bébé était déjà là. Donc, et moi j'ai pas identifié ça comme cette phase de transition, de désespérance parce que ça faisait que 3 heures. Donc je me suis dit mais je suis au début du travail, j'ai déjà tellement mal. Et en fait non, c'était la fin. Donc l'atterrissage a été assez intense.
Donc justement, est-ce que tu en gardes un bon souvenir de cet accouchement?
Oui, c'était très intense, mais j'en garde un très bon souvenir parce que même si j'ai pas pu mettre en place tous les petits outils que j'avais préparés pendant la grossesse, j'ai eu la chance, en fait, je me suis donné la possibilité, ma sage-femme m'a donné la possibilité, mon chéri aussi, puisqu'il a accepté ce projet et il s'est vraiment investi, de pouvoir accoucher chez moi, de manière bien entourée, avec des gens que je connaissais. La sage-femme, j'ai une confiance aveugle parce qu'elle m'a suivi toute la grossesse. Donc on se connaissait vraiment de manière intime et j'avais une confiance aveugle. Et elle m'a aussi laissé cette possibilité de mettre mon bébé toute seule, entre guillemets, au monde. Parce que pendant l'accouchement, elle n'est pas intervenue. Elle était là, elle prenait mes constantes, elle observait tous les signaux. Mais à aucun moment, elle est intervenue dans le fait de mettre au monde mon bébé. Et ça, pour moi, c'est une chance parce que j'ai vraiment cette fierté de me dire « je l'ai fait, en fait ». Parce que sur la fin de la grossesse, j'ai douté d'être capable de le faire. Et là, je l'ai fait. Je l'ai fait, j'ai mis au monde mon bébé, ça y est. Ça y est.
Une victoire. Et justement, je voulais te demander, bon, ça va me revenir, qu'est-ce que tu aurais pu améliorer Ah, ça y est, ça m'est revenu. Justement, avant de te demander ce que tu aurais amélioré, parce que tu dis, tu as eu plein d'outils pour le travail, etc. Mais finalement, tu ne les as pas utilisés parce que ça s'est déroulé trop vite. Mais est-ce que du coup, tu ne penses pas que malgré tout, cette préparation fait que c'est un plus dans le sens où du coup, papa et toi-même, vous êtes mieux préparés et que ça peut aussi vous aider à avoir confiance et que même si finalement, on n'utilise pas tous les outils qu'on est venu chercher, ça n'a pas eu quand même un effet, on va dire, positif ou aidant, en tout cas, dans cet accouchement ?
Ah si, complètement. Ouais, complètement. Je pense que si on ne s'était pas fait accompagner de cette manière, donc on a fait la préparation à l'accouchement avec la sage-femme, j'ai fait du yoga prénatal avec toi, des massages, j'ai été accompagnée en hypnonatal, on a été accompagnée en aptonomie aussi. La doula, oui, effectivement. La doula, on a fait l'atelier de naissance. La doula nous a accompagnés sur tous les questionnements des changements de la grossesse, de l'accouchement en soi, et puis du postpartum. Donc, on était aussi préparés, comme on peut être préparé avant de devenir parent, sur des aspects logistiques. En fait, on savait qu'après la naissance, tout était préparé pour qu'on puisse vivre ces premières semaines de parentalité, en tout cas, de manière plus cool. Et même si le jour J, effectivement, j'ai pas coché dans ma liste, j'ai fait du yoga, j'ai fait du ballon, je me suis suspendue, j'ai fait ci, j'ai fait ça, la préparation m'a permis de gagner confiance en moi, elle m'a permis d'être à l'écoute de mes sensations et de mon corps, et ça, je pense que ça m'a beaucoup aidée sur l'instant de l'accouchement. J'ai pas paniqué outre mesure dans le sens où je savais exactement ce qui se passait, pourquoi ça se passait, comment je pouvais aider mon bébé. J'ai quand même pu utiliser des outils d'hypnonatal pendant l'accouchement pour gérer la douleur, la respiration aussi. Et le fait est qu'il n'y a pas eu besoin d'intervention et j'ai même pas eu de... C'est le mot séquelle qui me vient, mais il n'y a pas eu de déchirure, il n'y a rien eu besoin de faire en fait. Mon corps, il a vraiment pu tout faire, tout seul, impeccable. Et d'ailleurs, j'étais très très étonnée que ça se passe comme ça. Et ça, je suis convaincue que si j'avais pas eu cet accompagnement-là, j'aurais peut-être pas été aussi en confiance. Et j'ai été aussi accompagnée par une psychologue pour gérer toutes les appréhensions en lien avec la maternité et l'accouchement. Et tout ce package-là, pour moi, c'était vraiment nécessaire. Et d'ailleurs, ça m'a permis aussi de tenir bon dans mon projet parce que pendant mes visites à la maternité, j'ai été super bien reçue. C'est ça aussi, c'est pas parce que moi, mon expérience fait que par rapport à mes angoisses, j'avais peur d'être en milieu médical que forcément, comme tu le disais, ça se passe tout le temps mal. Pas du tout, il y a de très bons professionnels, on est très bien accompagnés. C'était très personnel ce choix. Mais quand j'ai fait mes rendez-vous de parcours physiologique, on a compris que j'étais sur un AAD et en fait, j'ai eu un premier entretien qui s'est pas bien passé, où on a essayé de me dissuader et en fait, je suis repartie à 8 mois de grossesse avec beaucoup d'angoisse sur ce projet. Alors que j'étais à un mois du terme et en fait j'étais à 15 jours de l'accouchement. Et si j'avais pas eu tous ces outils-là, je pense que j'aurais flanché.
Et parce qu'on a essayé de te dissuader et que du coup ça peut raviver des peurs.
Exactement.
Mais du coup sur ce projet, qu'est-ce que tu aurais amélioré si tu devais améliorer quelque chose ?
Je sais pas si j'améliorerais quelque chose parce que finalement ça s'est exactement passé comme je le souhaitais. Je pense que si j'avais une seule chose à améliorer, ce serait peut-être effectivement la préparation à l'allaitement, je dirais. D'accord. Ça, c'est pour l'après.
Ouais, c'est vrai qu'on a toujours tendance à se préparer beaucoup pendant la grossesse, un peu pour la naissance, mais pas du tout pour le postpartum.
Exactement, c'est plutôt ça. Même si on a été accompagnée par une consultante en lactation, que les choses étaient un peu cadrées. Pour la grossesse, j'améliorerai rien parce que c'était... Enfin, ça a l'air idyllique. On dirait que je vis dans le monde des bisounours, c'est ridicule, mais ça s'est vraiment passé exactement comme je le souhaitais. L'accouchement aussi. Peut-être l'accouchement avoir un peu plus de temps. C'est-à-dire quand... Non, mais pas que ça dure plus longtemps, mais entre le moment où j'ai fissuré la poche des os et au moment où on est rentré vraiment dans le travail actif, je pense que j'ai eu une petite période de déni, en fait, de ça y est, c'est aujourd'hui, parce que je disais à mon chéri, large, il arrivera d'ici 24-48 heures, on est tranquille. J'étais pas du tout dans l'optique, il est là dans 4 heures. Et je pense que si j'avais pris conscience plus, peut-être que ça aurait été un petit peu... Je l'aurais peut-être vécu un peu moins comme c'est très intense, c'est très speed, et l'atterrissage après la naissance du bébé a été un peu difficile pour moi.
Et du coup, qu'est-ce que tu voudrais surtout pas changer à l'inverse, du coup ?
L'accompagnement que j'ai eu. L'accompagnement que j'ai eu et le fait d'avoir accouché à la maison, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Et j'ai, comme je te disais tout à l'heure, j'ai vraiment la sensation que la vie m'a offert le cadeau de pouvoir vivre cette expérience. Et d'ailleurs, j'en parle pas beaucoup, mais c'est toujours très émouvant pour moi de me dire oui, j'ai accouché chez moi, en fait. Plein de gens pendant la grossesse m'ont dit que c'était dangereux, que je prenais des décisions inconsidérées, que je me mettais en danger, que je mettais en danger mon bébé sans savoir comment on était accompagné. Faut dire que l'accompagnement des sages-femmes qui font les AAD sont ultra carrés, en fait. Elles se protègent aussi professionnellement. Et en fait, ben voilà, j'ai pas flanché, je suis allée au bout de mon projet.
Donc, ça, c'est vrai que c'est un peu dans les idées reçues, encore une fois. Je pense, enfin, c'est vraiment aussi les craintes qu'on a, parce qu'en France, on a cette idée que... mais parce qu'on nous... Enfin, c'est une idée qui est véhiculée aussi.
Bien sûr.
Qu'on nous dit que l'accouchement à domicile, c'est inconscient, c'est dangereux, qu'il peut y avoir des drames. Mais en réalité, ces discours, c'est pas qu'ils sont infondés, mais des drames, il y en a aussi. Enfin, moi, pour être du coup à l'hôpital, bah, malheureusement, il y en a aussi à l'hôpital, en maternité.
Bien sûr.
Et on peut penser, mais après, bon, là, c'est pas une vérité, ou en tout cas, c'est ma vérité, mais... Je pense que quand on optimise un accouchement physiologique et à la maison, on a souvent, comme tu dis, toutes les conditions qui sont réunies pour
Exactement.
Que ce soit le plus physiologique possible. Entre guillemets, il n'y a aucune raison que ça se complique. Et encore une fois, les sages-femmes qui pratiquent l'accouchement à domicile, enfin à la maison, elles sont vraiment préparées et, comme tu dis, elles sont très professionnelles. Et elles permettent aussi que bah, si jamais il devait y avoir une complication, bah, on a toujours ce repli de pouvoir, avec le SAMU, se diriger vers une maternité. Mais on a, enfin ça c'est encore une fois, c'est des cas qui restent quand même assez rares. Mais on va rester, c'est un peu comme, je fais une petite aparté, mais c'est un peu comme les informations, quoi, pour que, je suis désolée de parler de ça, mais c'est tellement ça, c'est en fait pour faire, on n'est plus là pour faire, on ne fait plus du journalisme pour donner de l'information, on fait du journalisme pour faire de l'audience, et du coup, on a ce truc de dire, il faut trouver l'info la plus sensationnelle et dramatique possible, parce qu'on sait que c'est cette info-là qui va faire le plus de buzz, et donc plus d'audience, et donc plus de chiffres, bah, c'est notre société. Bah, là, c'est un peu ça, en fait, et puis aussi, on a le cerveau qui a tendance à retenir le négatif plus facilement, donc si on fait 10 compliments et qu'on vous donne un défaut, qu'est-ce que vous allez retenir ? Le seul défaut, alors qu'on vous a fait 10 compliments. Donc le cerveau fonctionne aussi comme ça, et du coup, bah, si on entend un jour... un drame sur un AAD, et ben en fait on ne va retenir que ça. Par
Exactement.
Contre, on parle rarement des drames qui se passent en maternité, et pourtant il y en a. Et du coup, c'est un peu l'idée qui est véhiculée que l'accouchement à domicile peut être dangereux et inconscient, et on a tendance aussi à culpabiliser les mères ou les futures mamans, donc en l'occurrence avec ça. C'est un peu dommage parce que comme on écoute ton témoignage, ça peut être aussi fait très intelligemment. Alors je pense, comme toi, qu'il faut être très bien préparé, qu'un accouchement à domicile, ça se prépare.
Ça se prépare.
Qu'il faut être entouré de nombreux professionnels, mais que c'est possible et que ça peut aussi se dérouler très bien. Voilà, c'était ma petite aparté.
Et puis c'est surtout qu'aujourd'hui, on a des chiffres sur l'AAD et que les chiffres... parce que les sages-femmes qui font les AAD... tiennent un registre en fait de leurs accouchements et de ce qui se passe. Et les chiffres aujourd'hui montrent que en fait c'est pas plus dangereux et il n'y a pas plus de risque d'accoucher à la maison. En fait il y a même moins de gestes médicaux, et cette cascade d'intervention on la retrouve moins à la maison parce qu'on est effectivement dans un environnement où on peut... Moi je me suis sentie en confiance, j'ai pu tamiser la lumière quand je voulais, j'ai pu boire et manger comme je voulais, j'ai pu me déplacer comme je voulais, j'ai vraiment pu suivre le rythme de mon corps. sans être timée, parce que bah, à l'hôpital, malheureusement, c'est aussi comme ça. Les professionnels, ils ont du boulot, on n'est pas les seules patientes, donc il y a un rythme aussi, c'est la réalité. Et à la maison, c'est pas comme ça. Et je pense que ça m'a aidée, ça a aidé mon corps aussi à accoucher de manière optimale.
Tout à fait. Donc,
Et je ne changerai pas le conjoint. Je le dis, parce que j'ai eu la chance, d'avoir un conjoint qui s'est vraiment investi de A à Z et qui a été un pilier pour moi pendant la grossesse. Il a participé à toutes les préparations et le jour de l'accouchement, il a été mais...
Et ça, enfin... c'est vraiment ce que je vous dis quand on fait l'atelier naissance, c'est que pour moi, en tout cas, je pense que pour avoir un accouchement vraiment optimisé, c'est on a tendance à oublier que c'est le rôle vraiment de l'accompagnant, du coparent qui est très important. C'est lui votre coach, c'est le coparent qui va vraiment pouvoir être à l'écoute, driver, être là pour les petites attentions, pour être là pour vous encourager, pour vous aider si besoin.
Exactement.
Et ça, pour moi, je pense que ça fait vraiment la différence. Alors évidemment, encore une fois, bah, ça s'apprend. Parce que souvent, les papas, quand ils arrivent à la télé naissance, ils me disent bah, « moi, je sais pas, je suis là », quand on leur demande un peu leur rôle. Mais finalement, quand on leur apprend ce qu'on peut faire, comment on peut accompagner la femme qui est en train de mettre au monde leur enfant, etc., eh bien, en fait, on voit que ça leur donne vraiment des outils et que ça fait vraiment la différence, je pense.
Ah, complètement.
Après...
Même en étant angoissée du fait que ça y est, il allait devenir papa et qu'on était à la maison et qu'on était que entre nous avec la sage-femme, je ne l'ai pas vu sourciller et il a été vraiment très... Voilà, il savait quoi faire, il savait comment se positionner, il a su se retirer quand la sage-femme est arrivée parce qu'il savait qu'il a compris que j'avais besoin d'être entre femmes dans l'intimité. Il a su revenir au bon moment. Il a su avoir les gestes qu'il faut et les paroles qu'il faut. Donc, et il a appris, effectivement. Après, on a fait toute la préparation. Et puis, moi, je suis très scolaire. Donc, je lis plein de trucs. Je regarde les rapports d'accouchement à domicile. Je voulais aussi le mettre en confiance. Donc, il s'est aussi donné la possibilité de se questionner et d'aller chercher les bonnes informations pour avoir une préparation optimale.
Super. Quel est ton ressenti à 13 mois postpartum ?
Le postpartum pour moi c'est ce qui personnellement est le plus difficile parce que ben voilà, on est dans un nouveau rôle, on devient maman, il faut apprendre à concilier entre toutes les facettes de qui on est. Donc je suis psychologue, je suis maman, j'ai un conjoint, j'ai une famille, j'ai des loisirs, et c'est très difficile de je trouve en tant que maman d'arriver à un juste équilibre. Il y a la fatigue aussi qui personnellement pour moi est quelque chose de difficile, même si je pense que les hormones nous soutiennent quand même beaucoup. Et puis toutes les appréhensions, la société, on a plein d'injonctions à être une bonne mère, à faire les choses comme si on doit tout gérer, et pour moi c'est pas évident. J'ai un métier passion qui est très prenant, j'ai besoin de beaucoup de temps pour moi et j'ai besoin aussi de passer beaucoup de temps avec mon bébé parce que c'est vraiment un rôle dans lequel je m'épanouis beaucoup. Et en fait, j'ai beaucoup de mal à trouver un équilibre. Donc là aussi, dans l'après, j'ai décidé de me faire accompagner par des professionnels qui me guident un peu. Et c'est un vrai soutien, parce que c'est très important d'accompagner les jeunes mamans pour faire de la prévention au burn-out maternel, à la dépression du postpartum. Et puis, devenir parent, ça s'apprend. C'est pas...
Oui, en fait, finalement, c'est... Voilà, on se demande toujours quand est-ce qu'on pourrait finalement mieux se préparer à ce postpartum. Parce que ben, on attend, je pense, d'être enceinte pour se préparer, voilà, à cette grossesse, à la naissance. Mais après, ben, en fait, il faudrait vraiment qu'on consacre, je pense, aussi un temps pour la préparation au postpartum. Oui. Peut-être que ça aiderait
complètement
dans le vécu.
Je pense que pendant la grossesse, comme beaucoup de mamans, je me suis préparée au postpartum dans le tout de suite. C'est-à-dire qu'on a cuisiné, on a congelé des choses, on a fait des courses, on a quadrillé sur qui on voulait voir ou pas, qui viendrait, parce que la semaine après l'accouchement à domicile, en fait, la sage-femme passe tous les jours faire les premières pesées, surveiller que bébé ne perd pas trop de poids, vérifier que tout aille bien, vérifier que la maman aille bien aussi. Notre consultante en lactation est aussi passée 2-3 fois parce que l'allaitement a eu un peu de mal à se mettre en place. Mais après, on a décidé aussi de rester qu'entre nous, avec le papa, pas de famille, pas d'amis sur les 15 premiers jours. Et donc, le pratico-pratique était prêt, mais du coup, on ne s'est pas du tout questionné sur « Ok, bah, c'est quoi devenir parent ?» Comment le couple change, comment moi personnellement j'ai changé, je ne suis plus la même Alexandra avant la grossesse, pendant la grossesse, après. Et puis comment je peux prendre soin de moi, parce que je fais partie de ces mamans où je me fais passer après. C'est mon bébé d'abord, c'est même des fois le couple et le conjoint d'abord, et puis moi je suis en dernier quand il y a un peu de temps. Et puis en fait, je me rends compte que j'ai pas forcément de temps pour moi, donc c'est difficile. Et ça, souvent, c'est des choses qui arrivent à plusieurs mois postpartum, parce qu'au départ, on est à la tête dans le guidon.
Voilà. Souvent, c'est pour ça que bon, j'essaye d'en parler aussi un peu maintenant sur l'atelier, en toute fin d'atelier, quand, justement comment préparer un peu le postpartum. Mais on a, en fait, les mamans, souvent, même si on leur a dit, je pense après, peut-être les parents oublient, mais dès qu'elles ont accouché, les premiers jours, les premières semaines, souvent, voilà, 10 jours en tout cas, les 10 jours qui vont suivre, en tout cas dans ce postpartum immédiat, elles disent, oh, mais en fait, c'est super, c'est facile, tout va bien, parce qu'on a quand même encore de l'énergie, parce que
souvent, il y a les hormones.
Voilà, il y a les hormones aussi, etc. Et en fait, souvent, la fatigue va apparaître à 4-5 mois postpartum.
Ouais.
En tout cas, c'est ce qui est démontré. Et du coup, ben, en fait, comme au début ça se passe plutôt bien souvent, et ben, en fait, on a tendance à prendre sur nos réserves, etc. Et on accumule cette fameuse dette de sommeil et de la fatigue, etc. Qui va faire que du coup, à 4-5 mois, ben, là, ça commence à être vraiment difficile. Mm-hmm. Et si on ne s'est pas préparé à ça, ça peut être vraiment compliqué après pour la suite. Et on peut vite se laisser dépasser.
Surtout que souvent, ça arrive au moment où on reprend le travail.
Oui, c'est vrai. Donc on va accumuler encore plus de charges mentales. Et est-ce que tu penses relater ton expérience donc avec précision, est-ce que tu ne penses pas justement que le temps a un effet sur le ressenti ou le souvenir de ton accouchement?
Mais ça, c'est une déformation professionnelle. Je sais bien que non, je ne relate plus mon expérience avec autant de précision parce que il y a les hormones qui jouent, il y a le cerveau de la jeune maman qui change et en fait, il y a des souvenirs qui s'effacent. Donc moi j'ai écrit mon récit de naissance et puis même en l'écrivant très rapidement en fait en parlant avec le conjoint ou la sage-femme, je me suis rendu compte qu'il me manquait des petits morceaux. Et là même à distance, là je te raconte mon accouchement, mais je suis sûre qu'il y a plein de choses qui ne me sont pas venues à l'esprit. Donc le temps il efface des choses, mais c'est comme ça, c'est comme ça.
Et sur cet accouchement, donc qui t'a accompagné pendant donc ton travail? Et comment a été son accompagnement ou leur accompagnement?
Donc pendant le travail, il y a eu papa. Il y a eu papa qui, voilà, comme je disais tout à l'heure, a été hyper présent, hyper soutenant. Et je le remercie parce que je pense que c'est aussi grâce à lui que j'ai pu vivre cet accouchement de cette manière. Et après, ma sage-femme, donc Émilie Ducic Billecard, qui est en Antibes, qui n'accompagne que des AAD et qui est vraiment une personne formidable, autant dans sa personnalité que dans son accompagnement. Elle est à la fois très cool, très rigolote, très détente et à la fois très carrée, très bien organisée. Tout était sécuritaire et je me suis vraiment sentie en confiance pendant l'accouchement.
Super. Et ta doula peut-être?
Alors ma doula bien sûr, mais le jour de l'accouchement elle n'était pas là du coup. Elle était par texto, elle m'a guidée tout le long jusqu'à ce que je rentre vraiment en travail actif et que j'accouche quelques temps après. Elle a été d'un réel soutien par message et on l'a eu après au téléphone et elle est venue ensuite à 2 jours postpartum pour faire une visite postnatale. Donc son accompagnement aussi, elle s'appelle Nadège. Et Enso Mama sur les réseaux, et elle est vraiment très douce et son accompagnement a été de qualité sur la préparation de l'accouchement. Après le jour J, le déroulé et la vitesse de l'accouchement a fait que j'ai pas eu le temps de la faire venir. Donc
est-ce que tu aurais souhaité que leur préparation ou leur attitude pendant ton travail soit différente?
Non,
c'était parfait.
Parfait, ça correspondait parfaitement à ce dont j'avais besoin.
Et la question fatidique, est-ce que tu envisages de retomber enceinte et si oui, que changerais-tu?
Je sais pas, très honnêtement, aujourd'hui à 13 mois postpartum, je te dirais que non. Parce que le postpartum pour moi est difficile et que je ne sais pas comment je pourrais vivre un deuxième postpartum, même si tous les postpartums sont différents parce que tous les bébés sont différents. Mais je sais pas si j'aurai l'énergie et puis je donne énormément à mon bébé et je me dis que quand on en a un deuxième, on a toujours cette crainte de ne pas être suffisamment dispo pour le deuxième, de plus être suffisamment dispo pour le premier. Et puis j'ai vécu un accouchement vraiment comme je l'avais rêvé, et j'ai cette petite voix qui me dit, est-ce que tu repartirais sur un accouchement à domicile? Est-ce que tu te sentirais d'être en maternité? Et si tu partais sur un AAD et que ça ne se passait pas du tout de la même manière, puisque tous les accouchements sont différents? Donc je me dis, bah, finalement là ça s'est passé comme je le souhaitais, je me profite de ça. Et puis peut-être que j'aurai cette fameuse amnésie parentale dont je te parlais la dernière fois, où à un moment, le temps passe et on se dit « Ah, oh, un bébé, c'est trop mignon, allez, on repart ». J'espère que Simon n'est pas en PLS en m'écoutant. Parce que lui, pour l'instant, il est très heureux d'avoir un seul enfant.
Et pour terminer, donc, quel est ton plus beau moment sur cet accouchement ?
Le premier moment où j'ai vu papa prendre bébé. Parce que quand bébé est né, je l'ai tout de suite eu en peau à peau et j'ai fait la tétée d'accueil et je l'ai gardé en peau à peau pendant 1h30. On a tranquillement attendu qu'il y ait la délivrance du placenta. On était toujours dans la chambre. Et comme le placenta prenait son temps, au bout 1h30, la sage-femme m'a invitée à aller dans la baignoire pour faire jouer l'apesanteur en étant accroupie. Mm-hmm. Ce qui a très très bien marché. Et du coup, papa, à ce moment-là, a pu prendre bébé pour la première fois. Et c'est quelque chose que j'avais imaginé, en fait, pendant la grossesse. Et là, de le voir pour la première fois dans son rôle de père, c'était extrêmement, extrêmement touchant. Et ça, c'est une image que je garde.
Quel conseil tu aimerais donner aux futures mamans ?
Deux conseils pour moi. Le premier, c'est faites-vous confiance. Même si les choses ne sont pas forcément innées, je pense que c'est important de se faire confiance pour pouvoir essayer de vivre en tout cas cette expérience qui est vraiment pour moi une initiation. C'est initiatique, c'est transformatif. Et si on ne se fait pas confiance, c'est compliqué d'être conscient de ce qui se passe et de le vivre pleinement, peu importe en fait comment ça se passe, même si ça ne se passe pas du tout comme on l'aurait souhaité, même s'il y a des complications. Et la deuxième chose, c'est peu importe le projet d'accouchement, choisissez les gens qui vous entourent dans la préparation et faites-vous accompagner. Il n'y a pas de honte, au contraire, en fait, c'est très enrichissant, il y a tout à gagner et il y a plein de choses qu'on peut faire pour vivre une grossesse la plus sereine possible en tout cas et un accouchement le plus serein possible.
Super, merci beaucoup.
Faites du yoga avec Judy.
C'est gentil. Bon, encore une fois, je te remercie pour ce témoignage émouvant.
Merci.
Merci d'avoir accepté de nous dévoiler ton expérience. Alors évidemment, je vous le rappelle encore une fois, mais chaque femme, chaque mère, chaque naissance est unique et cette expérience n'est pas le reflet de tous les accouchements. Mais il révèle le témoignage d'une mère qui a vécu sa propre expérience et qui la transmet avec beaucoup de vulnérabilité et de justesse. Merci Alexandra, merci aux auditeurs, auditrices, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu ou si vous souhaitez partager avec moi votre expérience ou ressenti, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Et si vous souhaitez plus de contenu, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux Instagram, Judy Surya Yoga ou Mama Yoga Podcast. À bientôt.